Saul de Tarse, le grand persécuteur des premiers chrétiens, a été arrêté dans sa folie furieuse par une apparition du Seigneur, alors que, assoiffé de sang, il était en campagne contre l'Église naissante. C'est comme si on avait enlevé une grosse épine du pied de la communauté chrétienne qui peut désormais se développer tranquillement. Je continue à lire dans le chapitre 9. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Verset 31. Luc donne ici le troisième des sept comptes rendus sur la croissance spirituelle et numérique de l'Église. Jusque-là, elle était encore confinée aux Juifs, aux Samaritains qui étaient des demi-Juifs, et aux prosélytes, c'est-à-dire des païens convertis, une première fois au judaïsme et une seconde au christianisme. L'antagonisme des Juifs contre l'apôtre Paul était si fort qu'après son départ de Jérusalem, les chrétiens jouirent d'un moment de répit. Ensuite, ils connurent la paix pendant plusieurs années à cause des prétentions idolâtres de l'empereur romain Caligula. Comment cela ? Eh bien, cet empereur venait d'ordonner que sa statue soit placée dans le temple de Jérusalem pour y être adorée, ce qui était une profanation du lieu saint et un blasphème. Les Juifs étaient alors tellement agités et engagés dans leurs efforts à préserver l'intégrité de leur sanctuaire qu'ils n'avaient pas l'énergie pour persécuter l'Église. Je continue le texte. Pierre, qui parcourait tout le pays, passa aussi chez ceux qui, à Lydda, appartenaient à Dieu. Il y trouva un homme du nom d'Aîné qui n'avait pas quitté son lit depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. « Aîné, lui dit Pierre, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit. » Il se leva aussitôt. Tous ceux qui habitaient le village de Lydda et la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Versets 32 à 35. Pierre participait à une mission itinérante en Judée, ce qui l'amena à Lydda. Aujourd'hui, cette ville de la plaine côtière s'appelle Lod, avec au nord l'aéroport international d'Israël. Avant d'effectuer cette deuxième guérison, Pierre prend bien soin de souligner, comme dans le cas précédent, que ce n'est pas lui, mais Jésus-Christ qui accomplit ce miracle. L'Évangile avait un impact de plus en plus important dans toute la Palestine, et c'est ainsi que bien des gens de la région se convertirent au Seigneur. Du moins en apparence, car c'est l'épreuve et l'usure du temps qui prouvent la réalité d'un engagement envers le Christ. Je continue. À Jaffa vivait une femme disciple du Seigneur, nommée Tabitha. En grec, ça veut dire « Dorcas ». Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle et venait en aide aux pauvres. À cette époque, elle tomba malade et mourut. Après avoir fait sa toilette funèbre, on la déposa dans la chambre au premier étage de sa maison. Or, Jaffa est tout près de Lydda, et les disciples avaient appris que Pierre se trouvait là. Ils lui envoyèrent donc 2 hommes pour l'inviter en lui disant « Dépêche-toi de venir chez nous ». Versets 36 à 38. Lydda est en effet à 19 kilomètres de Jaffa, le port de mer de Jérusalem depuis l'époque du roi David. Situé dans une plaine fertile, aujourd'hui cet endroit est célèbre pour ses oranges. La distance entre ces deux villes est peu de chose en voiture. Mais à pied, c'était déjà une bonne trotte. Cette chrétienne décédée, qui s'appelait, traduit, Gazelle, portait bien son nom, car elle était particulièrement zélée pour le Seigneur. Jusque-là, dans l'Église primitive et d'après le récit des Actes, personne n'était encore ressuscité des morts. Mais la renommée des miracles de Pierre était si grande que les disciples avaient la foi que le Seigneur la ramènerait à la vie par l'intermédiaire de l'apôtre. Je continue. Pierre les suivit aussitôt. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre. Toutes les veuves l'accueillirent en pleurant et lui montrèrent les robes et autres vêtements que Tabitha avait confectionnés quand elle était encore des leurs. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. « Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, aperçut Pierre et s'assit. Celui-ci lui donna la main et l'aida à se lever. Puis il rappela les croyants et les veuves et la leur présenta vivante. Versets 39 à 41. Tabitha était une couturière hors pair, particulièrement appréciée dans l'Église qui avait mis son don au service du Seigneur. À cette époque, être capable de fabriquer des vêtements était encore plus utile que savoir réparer une voiture aujourd'hui. Lorsque Jésus guérissait ou ressuscitait les morts, il le faisait soit par la puissance de son Père, soit de sa propre initiative. Mais Pierre montre bien qu'il n'avait pas en lui-même la capacité de faire ce prodige. Son attitude humble à genoux indique qu'il dépend entièrement du Seigneur dont il invoque le nom et le pouvoir dans sa prière. Plus loin dans le livre, c'est Paul qui ressuscitera un mort. Ces deux événements nous sont rapportés pour bien montrer que ces hommes possédaient tous deux les dons apostoliques de faire des miracles. C'est Jésus qui les leur avait donnés, mais cette puissance s'estompa petit à petit. Aujourd'hui, personne ne possède de la part du Seigneur le don de guérir à volonté. Cependant, Dieu fait encore des miracles de nos jours en réponse à la prière des croyants. Les apôtres sont surtout importants par le fait qu'ils constituent le fondement de l'Église, eux-mêmes s'appuyant bien sûr sur Jésus-Christ qui est appelé la pierre d'angle de tout l'édifice. Ce sont aussi eux qui rédigèrent la plus grande partie des textes du Nouveau Testament. Dès que la foi chrétienne fut couchée sur le parchemin, en tant qu'écriture, la capacité de faire des miracles en tant que don disparut progressivement parce que l'authentification du message de l'Évangile n'avait alors plus besoin de démonstrations spectaculaires à répétition. C'est ainsi qu'à la fin de son ministère, l'apôtre Paul n'avait plus le pouvoir de guérison comme il le montre lui-même indirectement dans un de ses écrits. Aujourd'hui, certains gourous des religions orientales sont capables de faire des prodiges époustouflants. Mais cela ne constitue pas une preuve qu'ils sont des représentants du Dieu créateur. Un envoyé de Jésus-Christ se fait connaître comme tel par son message qui doit être conforme à l'enseignement des apôtres contenu dans le Nouveau Testament. Je cite comme preuve un passage écrit par l'apôtre Paul. « Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel vous annonçait un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. » Fin de citation. C'est la substance de mon message qui prouve si oui ou non je suis un véritable ambassadeur de Jésus-Christ. Je finis ce chapitre. La nouvelle eut vite fait le tour de la ville et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta quelque temps encore à Jaffa. Il logeait chez un tanneur nommé Simon. Versets 42 à 43. Luc nous dit en passant que Pierre demeura chez un tanneur assez longtemps, sans doute environ un an. Il nous donna un détail apparemment peu important. Cependant, la suite du récit va révéler que cette information est tout à fait significative. En effet, les tanneurs, à cause de leur contact perpétuel avec des cadavres d'animaux, étaient considérés comme rituellement impurs et leur métier méprisé. Or, ce sujet de pureté cérémonielle va s'avérer particulièrement important dans le chapitre suivant où le Seigneur va devoir donner une leçon à Pierre, son apôtre, un peu trop ultra-légaliste. Nous voici maintenant arrivés au chapitre 10 qui traite de la conversion de Corneille, un officier romain. Avec lui a lieu l'entrée officielle du monde non-juif dans l'Église. L'importance de cet événement se voit dans le fait que Luc le raconte trois fois dans le livre des Actes. Comme c'est à Pierre que fut donnée la charge d'ouvrir le royaume aux différents groupes qui composent l'humanité, c'est lui qui est en vedette dans ce chapitre. Ensuite, il disparaîtra de la scène pour laisser la place à Paul, l'apôtre des païens. L'expansion géographique de l'Église se poursuit. Elle est l'accomplissement initial des paroles de Jésus lorsque, dans l'Évangile, il a dit aux Juifs sur un ton de reproche « Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. » Fin de citation et je commence à lire le chapitre 10. À Césarée vivait un centenier romain nommé Corneille qui avait un poste de commandement dans la cohorte appelée l'Italique. Il était pieux et adorait Dieu avec tous les gens de sa maison. Il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. Verset 1 à 2. Le gouverneur Pilate vivait dans la ville de Césarée, qui était à cette époque la capitale administrative de la Palestine romaine et le centre principal des garnisons militaires. Corneille était un officier à la tête d'un détachement de 100 soldats dans une cohorte qui en comptait environ 600. Le Nouveau Testament mentionne plusieurs centeniers et chaque fois, ils sont présentés sous un jour favorable. D'après la description qui est faite de Corneille, on peut en déduire qu'il n'était pas un prosélyte à part entière du judaïsme, n'ayant pas été circoncis, mais qu'il adorait néanmoins l'Éternel. Il faisait partie de la catégorie des « craignants Dieu », c'est-à-dire des païens attirés par la foi juive qui assistaient au culte de la synagogue et observaient les Écritures de l'Ancien Testament au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Corneille était l'exemple type de celui qui est sincère, qui cherche le Seigneur et qui vit en accord avec ce qu'il a compris de Dieu. Des gens comme lui sont rares, car l'immense majorité des païens, des non-croyants, voire même des gens religieux, sont en réalité indifférents à leur Créateur et c'est cela qui les condamne, comme l'explique bien l'apôtre Paul que je cite. « Dieu du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils reconnaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. » Fin de citation. Au dire de l'apôtre Paul, la beauté d'une fleur et la majesté de la Voie lactée sont des preuves de l'existence de Dieu. Corneille était une bouffée d'air au milieu de l'enfermement pesant dû au paganisme idolâtre de son époque. Son influence avait été telle que toute sa maisonnée vénérait Dieu. Cela incluait non seulement sa famille, mais aussi ses serviteurs et au sens large, tous ses intimes avec qui il était en relation journalière. Corneille suivait en particulier certains commandements comme ceux concernant les aumônes et la prière. Je continue. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit « Corneille ». Corneille le regarda et tout tremblant demanda « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu et il est intervenu en ta faveur. C'est pourquoi, maintenant, envoie des hommes à Jaffa pour faire venir ici un certain Simon que l'on surnomme Pierre. Il loge chez un autre Simon, un tanneur, qui habite une maison près de la mer. » Versets 3 à 6. Les anciennes lois sanitaires exigeaient que les tanneurs habitent en dehors des murs de la ville. De plus, ils avaient besoin de beaucoup d'eau pour exercer leur métier. La vision de Corneille précède celle de Pierre, et les prépare tous deux à se rencontrer. C'est au moment de l'heure de la prière du soir que l'ange est intervenu. Même s'il est vrai qu'aucune action, aussi bonne soit-elle, peut me valoir la vie éternelle, il n'empêche que certains actes sont d'une grande valeur devant Dieu et il en prend note. C'est ainsi qu'il a remarqué la bienveillance de Corneille envers les pauvres. En effet, la loi de Moïse met particulièrement l'accent sur la libéralité. On a l'habitude de considérer les Juifs comme des gens qui accaparent les richesses. Cette caricature à l'emporte-pièce ne leur fait pas justice. Il est vrai qu'au cours des siècles, ils ont été très présents dans le commerce des pierres, objets et métaux précieux. Mais c'est parce que la chrétienté considérait alors que tout ce qui touchait l'argent était sale et du diable et avait donc été relégué aux parias, c'est-à-dire les Juifs. Alors bien sûr, certains d'entre eux ont profité de l'aubaine et se sont fait une mauvaise réputation. Mais cela ne change en rien au fait qu'à cause de leur arrière-plan religieux, les descendants d'Abraham dans leur ensemble sont un peuple particulièrement généreux. Un grand nombre de nos organisations caritatives a été fondé par des descendants d'Israël. Je continue le texte. Dès que l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et l'un des soldats affectés à son service qui était un homme pieux. Il leur raconta tout ce qui venait de se passer et les envoya à Jaffa. Versets 7 à 8. Jaffa se trouve à environ 50 kilomètres de Césarée. Les envoyés sont partis le soir même et sont arrivés le lendemain après-midi, ce qui veut dire qu'ils ont bivouaqué en cours de route. Je continue le texte. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en chemin et se rapprochaient de Jaffa, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Versets 9 à 10. Les temps habituels de prière des Juifs sont le matin et le soir, ce qui laisse supposer que Pierre priait trois fois par jour, suivant ainsi l'exemple d'autres hommes pieux qui l'avaient précédé, comme le prophète Daniel et le roi David. Pendant que les envoyés de Corneille étaient en route, il était impératif de préparer l'apôtre Pierre à entrer dans la maison d'un païen, car ce brave apôtre était encore plein de préjugés vis-à-vis des non-juifs. Je continue. Pierre vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile tenue aux quatre coins qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. Il entendit une voix qui lui disait « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » « Oh non, Seigneur !» répliqua Pierre, « car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. » Versets 11 à 14. Pierre réalise que c'est le Seigneur qui s'adresse à lui, et pourtant, il refuse d'obéir. C'est la troisième fois de sa carrière qu'il décide carrément à ne pas faire la volonté de Dieu. Il est lassant. Il était encore enfermé dans le carcan de la loi de Moïse qui interdisait de manger des animaux considérés comme impurs. Je continue. Mais la voix reprit et dit, « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. » Par trois fois, cela se renouvela. Puis, la nappe disparut dans le ciel. Versets 15 à 16. À trois reprises, la scène se répète. Et chaque fois, Pierre, qui est décidément têtu comme un âne rouge, refuse d'obtempérer. Voilà une situation où il est plus scrupuleux que Dieu. Catholique, il l'aurait été davantage que le pape. Ses intentions étaient bonnes, mais il restait figé dans le carcan de son judaïsme désormais archaïque. Et il avait l'effronterie de désobéir au Seigneur. Dans un livre de l'Ancien Testament qui s'appelle l'Ecclésiaste, il y a une phrase étonnante qui dit « Ne sois pas juste à l'excès ». C'était exactement le problème de l'apôtre Pierre. Il était super légaliste et comme le dit l'apôtre Paul dans l'un de ses écrits, « La lettre de la loi tue, mais c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie ».